Bonjour, ici Autre Radio, Autre Culture. Ce soir, nous recevons Alfredo Cutufla. Alors, qui est Alfredo Cutufla? Eh bien, c'est un très grand musicien de la salsa vénézuélienne. Alfredo, bonjour.
Bonjour, Marion.
Je voudrais savoir, parce que tu es timbalero,
ouais.
Quelle était la différence entre un timbalero et un joueur de timbal dans les orchestres en France?
En général, la différence de timbalero à un joueur de timbal, c'est que l'instrument de timbal même qu'on utilise dans la musique salsa, c'est des instruments, comme on peut dire, des instruments de percussion indéterminés. Parce qu'il y en a plein d'instruments de percussion dans la musique sud-américaine, surtout dans la musique négroïde, tu sais, dans les côtes de la Colombie, Venezuela, tout ça. Mais par contre, la timbale classique, c'est un instrument de percussion déterminé, parce que ça s'ajoute dans la musique classique. Voilà. À part de la timbale classique, la caisse claire, tous les autres instruments de percussion, ça s'appelle des instruments indéterminés. Voilà. Et ça, c'est la différence que les timbales s'utilisent dans la musique de salsa et la timbale, comme on dit en français, c'est dans la musique classique. Voilà. Mais c'est presque le même nom, mais ce n'est pas le même instrument.
Alors, je sais que tu es vénézuélien,
oui.
Originaire de Caracas. J'ai appris que depuis tout petit, tu es passionné par la musique, alors je dirais salsa, alors oui. Que le terme de salsa, à cette époque-là, n'était pas employé. Peux-tu nous expliquer ce que l'on écoutait au Venezuela, dans les années 50?
Dans les années 50, on écoutait la musique comme les mambo. Et tu sais, à cette époque-là, c'était la musique, les sons purs. C'est la musique afro-cubaine. Quand on dit son, c'est la musique pure. La salsa, ça veut nous, après, dans les années 70, 80, hein, que c'était une mode. Pourquoi est-ce que ça devenu le nom de salsa? Bien sûr. Parce qu'on a introduit dans les sons purs cubains, on a introduit des petits morceaux de bossa nova, des petits morceaux de cumbia, tu comprends? Des petits morceaux de plena. C'est que c'est la cumbia, c'est le rythme typique colombien. La plena, c'est le rythme typique de Puerto Rico et du Brésil, le bossa nova, la musique brésilienne. C'est bon dans la musique afro-cubaine, et c'est pour ça qu'on l'appelait salsa, hein, parce que c'est un mélange en tout type de tous les rythmes sud-américains. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a incité à en jouer?
Ouh là là, c'est vraiment. Ça me fait rigoler un peu parce que avant de que je sois musicien, j'aimais beaucoup la peinture, les dessins. Et j'ai dessiné, je faisais un peu la peinture pour mon oncle, parce que mon oncle était peintre. Et moi, j'aimais aussi, je suivissais pas. Un soir, il me demande ma grand-mère d'accompagner ma tante dans un bal. Et ma tante, elle avait un amoureux, qui c'était un musicien qui jouait les quatre vénézuéliens. C'est une espèce de guitare avec quatre cordes, on l'appelle quatre vénézuéliens. Et ma grand-mère me dit, tu peux accompagner ta tante? Je lui ai dit, oui, d'accord, je l'accompagne. Et on arrivait dans le concert, il avait une orchestre qui s'appelait l'orchestre de, comme on dit, la police qui s'occupe de dégager les embouteillages dans la rue, comment ça s'appelle ça?
Les gardiens de la paix, les agents de circulation.
Voilà, un agent de circulation, là-bas ça s'appelle la policía del tránsito, o sea, ça veut dire voilà, l'agent de la circulation, ils sont une orchestre là-bas parce que là-bas la police, les pompiers, les agents de la circulation, ils sont une orchestre de salsa là-bas. Hein? Et bon, j'arrive avec ma tante, et je vois tous les instruments comme ça, et ils ont commencé, jamais j'oublierai ça. Ils ont commencé avec un morceau del maestro Johnny Pacheco qui s'appelle Kikiriki, cantava el gallo. Kikiriki, tariro, tamparirora, tararirora, pa, trara. Con il a fait con ça, le timbalero, j'étais vraiment fasciné. J'avais dit, non, c'est pas possible, c'est ça que je vais faire. Et je l'ai vu, et depuis ce jour-là, j'étais comme un sorcellé. Je arrivais à la maison, et mon trépied, on dit trépied, où tu fais la peinture.
Oui.
Voilà, là, j'ai mis...
Un chevalet, oui.
Un chevalet, voilà. J'ai pris un verre de ma mère dans la cuisine en verre en métal. Et je l'ai enroulé avec un gum, tu sais, avec un gomme, comme ça, autour du chevalier, comme ça, et ça faisait une cloche, toc, 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 ça sonnait comme ça. Et au bord des chevaliers, comme ça, je jouais avec les baquettes, comme si je jouais au bord des timbales. Tu sais, comme ça. Et j'ai commencé avec un disque d'un groupe qui s'appelait Joe Cuba. S'appelle, on est en train de faire quelque chose de bien. Ça s'appelle la disco, comme ça. Estamos haciendo algo bien en español. Et avec un autre disque de Ray Barreto, qui s'appelait Fuego y Palante. Et je commençais avec ces deux disques-là. Et je tapais tous les jours. Et j'avais dit, il me manque quelque chose. Et j'ai pris du pont où ma mère gardait les haricots et les sucres. Et je vidais les haricots et les sucres du pont en métal. Et comme ça, j'ai fait les deux timbales plus les verres. Et je débranchais une antenne de télé qu'elle avait des spirales, comme ça. Et je l'ai débranché de deux côtés et ça faisait psss, 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 et ça c'est la cymbale. Et je commençais à jouer comme ça, tous les jours, et je tapais. Il y avait un programme qui s'appelait, à l'époque, La Hora de la Salsa. Et dans les années 70, je te parle de les années 68. Et là, je commençais tous les jours à midi, à taper, et comme ça. Et ma mère, elle disait, oh là là, mon fils va devenir dingue. Ese truco iba a devenir fu. Y con esa, y yo me si plus jamais arrêté jusqu'au judi. Bueno, yo continuo.
¿Tu avais quel âge?
Moi, j'avais un peu près de 14 ans.
Ah, tu avais 14 ans déjà, à cette époque-là.
Mais moi, mon premier enregistrement, c'était avec un chanteur qui s'appelait, parce qu'il est vivant encore, il s'appelle Jesús Gómez. On avait fait un enregistrement, on l'a appelé le roi du timbal. Et moi, j'avais fait le bongo et la cloche. Ça c'est dans les années 68, j'avais 15 ans, voilà. À l'époque, j'avais 15 ans. Je suis né en 53, voilà, 63 disques, où j'avais 15 ans à l'époque, on a fait ce disque avec lui. C'est mon premier disque que j'ai fait avec lui.
Y a-t-il une grosse différence entre la salsa vénézuélienne et la salsa que l'on trouve à Porto Rico, à Cuba ou alors en Colombie?
Oui, oui, un tout petit peu, parce que... Bon, à l'époque, aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes qui, par exemple, les percussionnistes, ils jouent d'une manière assez rapide. Ça va vite, mais ils sont presque tous aujourd'hui, c'est lamentable de le dire, mais c'est la vérité, ils sont presque tous le même style. Ouais, mais pendant qu'avant, les musiciens, ils essayaient d'avoir une couleur personnelle. C'est comme ça dans la musique, quand tu écoutes le groupe Nietzsche et tu écoutes Oscar de León, ils sont un son différent, les timbres sont tellement différents. Mais pour moi, particulièrement, pour moi, la pure musique, vraiment, que on appelle aujourd'hui la salsa, la pure, c'est pour moi, c'est la musique cubaine. C'est la plus pure musique dans ce style. À partir de là, ils sont nés tous les autres styles. No? Bon, maintenant, ça s'est développé par de vrai dans tous les continents sud-américains, comme Saint-Domingue, tu sais, la Colombie, Venezuela, Porto Rico. Et c'est vrai que les portoricains, ils ont donné un couleur vraiment bien brillant et moderne à l'style qu'on appelle aujourd'hui salsa. No? Mais... Quand on écoute vraiment chaque pays de ce continent, il y a chaque groupe, il y a un son différent. Bon, il y en a des groupes qui sont tous pareils, parce que ça, c'est très difficile. Le plus difficile dans la musique, je crois, pour un musicien et pour une orchestre, c'est d'avoir son propre son original. C'est comme on dit, ah voilà, ça c'est le grand combo de Porto Rico. Ah, ça c'est le grand combo. Quand on l'écoute, c'est le connaisseur de ce style de musique, ils vont dire... On ferme les yeux et on écoute. C'est qui celui-là? Ils vont dire, ça c'est le grand con. C'est qui celle-là? Ah, ça c'est la sonora ponceña. C'est qui celle-là? Ah, ça c'est la charanga nueva. No? Parce que ça c'est le plus dur, c'est d'avoir un style. C'est pas de jouer la salsa. Tout le monde peut jouer la salsa. Les bayombes, si tu veux, les bossa nova. C'est pas grave. Parce que la musique, elle est à la portée de nous tous. C'est vrai? Mais c'est très difficile d'avoir un style et d'avoir un son personnel. Voilà.
Alors comment peut-on, petit gamin de Caracas, faire la carrière fulgurante que tu as eue justement en Amérique latine?
Tu sais, moi je peux te dire deux mots sur ces questions. Moi, j'ai commencé, comme je t'expliquais, je t'avais dit un peu avant, avec ces passions, j'ai eu cet instrument. Mais je pense que, comment pédir le succès d'un musicien de quelqu'un qui est dans le monde de la musique, dans le monde artistique, comme pédir, le plus dur, c'est le travail. Ça, c'est le plus dur, c'est le plus difficile d'être constant dans l'instrument, d'aimer son instrument et de le travailler. Et le plus dur, c'est vraiment de travailler l'instrument chaque jour, d'avoir une certaine discipline pour l'instrument. Si on n'a pas de discipline dans l'instrument, on n'arrivera jamais à rien. Et on sera n'importe quel musicien. Quand on va jouer sur une scène, et les gens te verront jouer, tu seras pareil comme les autres 200 millions qui existent. Tu vois? Mais les 200 millions qui existent, il y en a toujours, sont qui se font remarquer pour son travail. Il faut s'encharner. Et surtout la musique. La musique demande énormément de travail. Même si on ne joue pas au concert, c'est ça le plus difficile de la chose, que même si on ne joue pas au concert, il faut la travailler toujours à la maison. On se lève, on prend un thé et on tape. On mange et on tape, et voilà.
Alors, je vais, pour les auditeurs, je voudrais raconter quelques anecdotes parce que je connais Alfredo Cutufla quand même maintenant depuis plusieurs années, pas mal de temps.
Quelques années, maintenant,
c'est et il y a une chose qui m'a toujours amusée quand je le voyais arriver au studio, c'est que vous lui parlez et il vous écoute, ça c'est sûr qu'il vous écoute, mais vous le voyez toujours, il va prendre deux couteaux, deux fourchettes, deux cuillères, deux crayons, deux stylos. Et pendant que vous lui parlez et qu'il vous répond, il va jouer. Alors il va jouer sur le fauteuil, sur la table, sur les genoux. Et j'ai eu la chance d'aller avec son groupe, la Charanga Nueva, en Hollande, pour un très grand concert. Et pendant tout le trajet du car, que faisait Alfredo Cutufla pendant que les autres dormaient, mangeaient, papotaient? Et lui, il était avec ses deux baguettes et il tapait sur le siège avant. Pendant les 7 heures de voyage. Ça, c'est véridique.
Oui, c'est vrai. Bon, c'est ça. C'est ça la musique. Si on veut vraiment voir une discipline. Tu sais, mon fils, il vient de commencer dans la musique. Ça fait quelques années. Bon, il joue avec moi maintenant depuis qu'il avait 4 ans. Mais c'est ça que je l'explique tous les jours, de voir une discipline. Parce qu'il est un peu feignant pour pratiquer, mais maintenant il s'applique un tout petit peu plus, et voilà, je suis content.
Juste une aparté, il est quand même au Conservatoire National.
Ah, maintenant, oui, il fait des grandes études, il passe ses diplômes maintenant.
Voilà. Ouais. Alors, dans les années 70, tu es considéré comme le chef de file en Amérique latine, justement, de la salsa.
Au Venezuela, dans les domaines de la percussion.
D'une génération de musiciens,
voilà,
ouais,
d'une
tout
génération
à fait.
De musiciens, ouais. Parce que j'avais commencé. Il avait une manière de jouer, d'interpréter l'instrument, et je l'avais commencé dans mon pays, au Venezuela, je commençais à le jouer d'un tout petit peu d'une autre manière, comme les jeunes le jouent aujourd'hui, sauf que les jeunes aujourd'hui vont plus vite que moi, c'est normal. Mais nous, on avait une génération qu'on avait commencé déjà avec cet style qu'on appelle développer plus les roulements, no? Sur l'instrument de percussion. Voilà, et j'étais bon, à l'époque. Bon, il le dit, pas moi, je le dis pas, c'est les gens qui disent ça, que j'étais, comment
on
dit,
l'instigateur, le premier.
Voilà, comme ça.
Alors, curieusement, alors que tu as un énorme succès en Amérique latine, en 77, tu quittes tout le monde et tu t'en vas aux États-Unis.
Ouais.
Que t'a apporté cette aventure américaine?
Et beaucoup de choses, parce que déjà, nous, on a été, à l'époque, on a été très fascinés par les orchestres new-yorkais. Normalement, au Venezuela, nous, on avait jamais suivi la musique à l'estilo afro-cubain, seulement dans la manière percutive. Ouais, parce que, vraiment, dans la manière percutive, sur la percussion, Cuba, ça sera toujours la reine. Ça sera la merde. Ça. Mais en matière de harmonie, tu sais, d'harmonie, d'instrumentation, c'était les New-Yorkais et les Puerto-Ricains qui donnaient vraiment à l'époque, c'est le style qui marchait. Et moi, j'étais fasciné surtout pour Pacheco, pour Ray Barret, Tori Palmieri et tout ça. Et je suis allé à New York pour faire des études J'aimais toujours la caisse claire, sauf que jamais j'ai eu le temps de m'appliquer parce que c'est un instrument complètement, vraiment difficile. Et je voulais faire quelques petits pas aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, l'école de la percussion, elle est bien vraiment riche. L'école de Baqueta, c'est là-bas, la batterie, c'est américaine. C'est là-bas, oui. Bon, je suis allé aux États-Unis pour ça, que pour étudier. Mais je commençais à jouer avec des gens par-ci, par-là. Mais j'aimais pas trop New York, vraiment.
Pourtant, tu as joué avec Tito Puente?
Oui, je jouais avec Puente.
Daniel
Santos, oui, c'était des chanteurs portoricains. Mais ce n'était pas de la salsa, parce que Daniel Santos, il chantait plutôt les boleros. Les boleros, les sons cubains, tout ça, les pulsas. Il chantait plus la musique traditionnelle. Mais bon, le groupe que je jouais beaucoup à New York, c'était un groupe de jeunes qui les appelait à l'époque les Rumberitos All-Stars. C'était des fils de Cubans nés aux États-Unis. J'en avais un groupe de tambour et je jouais plusieurs années avec eux. Je restais aux États-Unis 5 ans. Mais je n'ai jamais aimé New York, vraiment. Je le dis de tout mon corps. Il y avait quelque chose que je ne sentais pas. Et voilà, j'ai parti comme ça. Je me suis rencontré avec mon copain Cushy, que tu connais très bien, le bassiste. Il m'a dit, Fredo, il y a quelque chose en Europe. Tu veux venir un peu, venu du mois. Et je suis venu en Europe, j'ai arrivé à Bruxelles. Et j'ai bien aimé, et je restais pendant...
Mais il n'y a pas eu ce besoin, au bout de quelques années aux États-Unis, avec... il n'y a pas eu cette envie de retourner au pays?
Au Venezuela?
Oui.
De toutes les façons, on a toujours envie de retourner.
Ouais.
Sauf que quand on est là-bas, après, on a envie de repartir.
De repartir. L'éternel saltimbanque, finalement.
Mais oui, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en dehors de mon pays. Tu vois? Et même, il y a des gens qui me connaissent très bien dans mon pays, ils disent que moi, je ne sais plus parler espagnol.
Ah oui.
Voilà, j'ai écouté de ça de plusieurs collègues qui m'ont dit, tu sais que là-bas, les gens, ils disent maintenant que tu ne sais pas parler espagnol. J'ai dit, ah bon, oui, que tu as oublié la langue. Ah bon.
Non. Alors effectivement, tu traverses l'Atlantique pour les Pays-Bas et la Belgique, et c'est dans les années 83. Restes...
80 ans, j'y arrive 81. En 80 ans à Bruxelles, ouais.
Et que fais-tu pendant ce temps-là, alors à Bruxelles? Pendant que se passe-t-il à ce moment-là?
Je restais à Bruxelles, c'est une ville que j'ai bien aimée. Et là-bas, on a commencé à jouer avec Cushy et plusieurs amis vénézuéliens à Bruxelles. Et, on avait formé un petit groupe de 8 musiciens. Et je restais 12 ans quand même à Bruxelles. Et je voyageais entre Bruxelles et Amsterdam. Parce que j'avais ramené des amis à moi de New York. Et j'avais monté une orchestre à Amsterdam qui s'appelait La Salsa de Hoy. C'était formé avec des musiciens vénézuéliens et portoricains et dominicains. Que on avait ramené avec un ami à moi qui s'appelle René Cárdenas. Et on avait ramené tous ces musiciens des États-Unis et du Venezuela. Et on avait formé cette orchestre. Et on avait tourné beaucoup à l'époque du 81 jusqu'à 83. Mais... En 83, je suis connu un musicien qui s'appelle Rodolfo Pacheco, très connu ici, percussionniste, que j'ai rencontré à Bruxelles. Il m'a dit, écoute, on a un groupe qui s'appelle Los Salseros à Paris. Et on avait besoin d'un timbalero, parce que notre timbalero, il s'est fait opérer de la jambe, et ils l'ont mis une espèce de métal dans la jambe, selon l'opération. Et quand il arrivait l'hiver, chaque fois, il sentait... très très mal à la jambe, il voulait plus rester ici, il a rentré à Martinique. Et son resté sans timbalero, il m'a dit, tu veux venir avec nous, parce qu'on joue dans un endroit qui s'appelle la Chapelle de Lombard, si tu veux, tu viens du mois avec nous, à faire un... et tu restes un peu et tu vas. Et je suis venu avec, sur un contrat de travail, parce qu'on n'avait pas le droit de venir ici si on n'avait pas un visa pour rentrer en France. Digo, oh, ese visa se me afecta de problemas. C'était très difícil por entrar a la época. Y sí, bueno, yo obtengo la visa y yo sí vengo a Francia y una comencé a jugar. Pero, bueno, malheureusement y heureusement a la fois, yo conozco el que más famoso, yo digo, ça fait 25 ans. Et voilà, il est resté ici, en France.
Et oui, parce que finalement, le grand amour est arrivé.
Mais oui.
La rencontre avec Patricia.
Mais voilà.
Qui a fait que enfin Alfredo a déposé ses bagages.
Mais ouais. Mais normalement, mon plan, c'était de rester ici 2 mois et de repartir à New York. C'était l'idée que j'avais dans la tête. Je, parce que, en effet, j'avais passé 3 ans. J'avais dit, bon, Europe, c'est bien, mais je vais retourner quand même aux États-Unis. Mais non, j'ai rencontré ma femme. Et voilà, ça fait 25 ans maintenant que je suis ici.
Alors, l'arrivée à Paris, finalement, a été hyper passionnante. Parce que non seulement il y a eu la rencontre avec Patricia, qui a donné quand même 3 magnifiques enfants.
Oui, oui.
Et, mais il y a eu surtout la rencontre avec des grands groupes de salsa. Et je sais que tu as joué avec le regretté pianiste Alfredo Rodriguez.
Oui, bien sûr. On avait fait former un sexteto à l'époque. Avec Cucho Almeida à la basse, c'était les saxophonistes, c'était Enrique Fernandez. Et c'était Rodolfo Pacheco à la percussion. C'était un ami espagnol que jouait le bongo, qui s'appelle Ernesto. Je ne me rappelle plus de son nom de famille. Alfredo Rodriguez au piano et moi au timbale. Et le groupe s'appelle Alfredo Rodriguez et son groupe Orisha à l'époque. Ça, c'est 84, l'année 84. Et en même temps, nous, on jouait avec les salseros. Parce que les salseros, ils tournaient beaucoup. C'était le groupe qui accompagnait Azuquita.
Oui.
À l'époque. Voilà. Et après de l'histoire de Feo Rodriguez, tout ça, bon, chacun il a fait un peu de carrière séparé. Et on avait formé le Combo Ventus, que c'était 100 musiciens, un groupe de 5 musiciens. Et là, avec ce groupe, oui, on avait fait tous les fêtes qui sont nées, qui ont fait ça à l'époque, au New Morning, dans la Méridou 14e, à la Boulevard Raspail, tout ça. Nous, on les faisait avec ce petit groupe. Parce qu'il avait beaucoup de manifestations musicales dans ce moment-là à Paris. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, il y en a, mais ce n'est pas pareil. Ça a changé.
Ça a changé, oui.
Ouais.
Et donc, cette installation en France va voir la création d'un groupe qui te plaît tout particulièrement, parce que c'est ton bébé, c'est la Charanga Nueva.
La Charanga Nueva. Oui, la Charanga Nueva, c'est vraiment c'est une histoire. Pour moi et pour nous, les musiciens qui formons cette orchestre, c'est une autre chose à nous. On est, parce qu'à part d'être musicien, on est tous des amis dans l'orchestre. On est vraiment tous des amis et on a un respect chacun d'entre nous. On se connaît bien et hoy on aime beaucoup jouer ensemble. Et malheureusement qu'on ne joue pas beaucoup ici sur Paris, sur ces places de Paris, parce que c'est une orchestre. Vraiment, avec beaucoup de musiciens.
Oui, on compte ouais. Combien de musiciens? 15 ouais. À peu près.
Oui, ouais, 15. En ouais. gros, l'orchestre complète, c'est 17 musiciens.
17 musiciens.
Complète. Ouais. Et si, malheureusement, il faut le dire, et c'est comme ça, malheureusement, aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de place pour cette orchestre ici, dans cette ville.
De toute façon, en France, à part les grands festivals, pour la charanga,
ouais, pour le moment,
il est évident que les salles de concert actuellement réduisent au minimum le nombre de musiciens.
Des musiciens.
On prend des groupes de 4-5 personnes, mais c'est vrai qu'il est difficile d'inviter 17 ou 18 musiciens, tous habitant en France, donc sous des conventions françaises.
Ouais.
Et donc on est en dehors justement de ces groupes cubains qui sont moins bien payés. Et qui peuvent venir avec le même nom, mais avec justement avec des salaires beaucoup moindres et des charges sociales quasiment inexistantes.
Oui, normalement le problème il va jusqu'au-delà, parce que si ça serait avec la même cause comme on travaillait avant, parce que les musiciens ils avaient tous droits à Comme tout travailleur, tout le social,
oui.
son fils de paix, son congé de spectacle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens que c'est malheureusement à dire, mais c'est la vérité. Et je le dis, et excusez-moi mes collègues, mais si ça les fait mal, je suis désolé pour eux. Mais il y a beaucoup de musiciens qui jouent pour des cacahuètes. En plus, ça n'existe plus la fiche de paix et il n'y a plus le congé de spectacle. Tu vois, ça c'est 3 choses qui sont vraiment disparues. Dans l'estilo de musique, et je crois qu'à partir de là, ça s'est perdu un tout petit peu le respect vers
ces musiciens.
Voilà,
ouais.
Ces musiciens, et surtout sur ces musiciens qui jouent ce style de musique. Voilà, c'est mon avis. Parce qu'à mon époque, surtout que nous, on a commencé avec cet style de musique ici, nous, comme Azuquita, tous ces gens-là qui ont commencé. C'était pas comme ça. À l'époque, ils payaient les artistes. Même, on répétait avec des orchestres, des musiciens français, que c'était antillais. Et même avant les répétitions, ils étaient payants.
Oui, ce qui est maintenant très rare.
Tu te rends compte, à l'époque, même ouais. C'était payant les répétitions. Aujourd'hui, ça n'existe même pas. Il y a un petit band des amateurs, malheureusement, il faut le dire comme ça, qui sont appris, ou ils ne sont pas appris à jouer, non, à gratter. Un petit peu l'instrument. Et voilà, il dit, écoute, Manon, comme je gratte un peu, l'autre gratte un peu, et l'autre gratte un peu, on va jouer un petit peu. Et c'est pas grave, le patron, il nous donne 17 euros, il y avait ça, ça va. Et tu vois, j'ai 8 chez ma mère et chez mon père, j'ai pas besoin.
Oui. J'en discutais avec d'autres notre musicien, des musiciens qui sont aussi excessivement confirmés, du genre Pascal Coulon, le harpiste, qui joue énormément de musique vénézuélienne. Et qui était très surpris que pour des galas du 31 décembre, on ne lui offre pour lui et pour trois autres musiciens que 150 euros pour tout le monde.
Mais et... c'est lamentable. Mais normalement, je considère qu'un gala le 31 décembre, déjà pour une orchestre de 10 musiciens, 4000 euros, ce n'est pas beaucoup. Si de toutes les façons, comme je l'ai dit à les musiciens, sans parler du 31 de décembre, on est des musiciens formés qui ont une carrière professionnelle, chaque membre de l'orchestre, qu'il y a une carrière personnelle déjà, qui ont fait beaucoup de disques, beaucoup, ils ont fait beaucoup d'études. Quand tu joues avec une orchestre de musiciens, tu demandes un concert. Si tu dis, donnez-moi 4000 euros, on fait le concert 4000 euros. Ah non, mais c'est beaucoup. Oh là là, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi c'est beaucoup d'argent si con les Rolling Stones, ils demandent 100 millions Ils sont 4 seulement. 4 millions, ils se mettent 1 million 250 000 chacun. Donc, je dis, écoute, nous, vraiment, on coûte vraiment pas cher. Hein? 4000 euros, c'est vrai? De 100 millions d'euros à 4000, c'est vraiment pas cher, c'est vrai? Il faut qu'il vienne encore des personnes, des éléments, à oublier tout ça, à oublier les prix, à casser les prix et dire, c'est pas grave, oh, 40 euros, c'est bon, on va jouer, on va s'amuser en tout, parce qu'on veut s'amuser en tout type. C'est vrai que la musique, c'est bon pour l'esprit, il faut s'amuser. Tu peux t'amuser très bien chez toi aussi. Comment tu prends ton instrument et tu joues chez toi ou dans ta salle de bain et c'est bon, c'est suffisant. Mais je ne suis pas d'accord qu'on vient à casser vraiment le travail des professionnels, et surtout dans le monde de la musique. Parce qu'il y en a des personnes qui ont fait une carrière, qui ont étudié pour ça, et je ne suis pas non plus d'accord avec tous ces gens qui contractent les groupes et qui sont aujourd'hui mis, tous les musiciens qui sont de carrière avec les autres qui ne sont pas de carrière, ils ont mis à tous ces musiciens dans le même sac.
C'est général au niveau de tous les artistes. Je discutais avec une peintre professionnelle qui vit de son art et qui expliquait qu'elle avait un énorme problème lorsqu'elle se retrouvait dans des expositions avec des amateurs. Les amateurs vendaient 20 euros leur toile, mais ils travaillaient, ils avaient un travail à côté. Ouais. Et elle arrivait avec toutes ses charges sociales à payer et autres. Et donc, ses toiles valaient beaucoup plus cher. En plus, elle avait été primée dans des grands salons et autres. Et elle disait, les gens disaient, bah non, c'est très cher. On va pas acheter ça. On va aller acheter chez l'amateur. Et elle disait, il y a un problème. Soit on est amateur et on ne vend pas dans ces cas-là. On peut présenter ses œuvres, mais on ne les vend pas. Mais on ne s'amuse pas à se mettre à côté des professionnels et à vouloir la même chose, avec des tarifs moindres.
Oui, mais c'est, malheureusement, dans le monde artistique, ça devient comme ça, surtout dans le monde de la musique populaire. Dans la musique populaire, ça devient vraiment comme ça. C'est très difficile parce que les gens, il y en a des autres qui veulent jouer, ils veulent s'amuser, c'est pas un problème pour eux de casser les prix. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est que vraiment qu'on met tous les artistes dans le même sac. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont fait vraiment une carrière. Tu les demandes à Monsieur Camilo Azuquita, tu peux me donner ton curriculum. Mais bien sûr, lui va te donner des disques qu'il a fait de n'importe quelle époque. C'est pas la même chose que je vais aller demander à un amateur, donnez-moi ton curriculum, il n'a rien à me montrer, il a une maquette à me montrer. Donc c'est pas pareil, tu peux pas payer un artista qui a plusieurs, vraiment, presque toute une vie de carrière, qui a joué avec tous les plus grands musiciens, avec un autre qui n'a joué avec personne, même avec sa mère. Donc tu ne peux pas payer la même chose, on ne peut pas les payer à Oscar de Léon pareil qu'un amateur. Y se sasa que yo sí pa de acuerdo, sobre todo de leían les empresarios y tú sabes, leían de espectáculo. Y sí, y hay otro problema, sí, gran. Le gran festival que font ici en France, c'est bon qu'ils lo font, c'est bon festival, bon, ça passe l'été seulement, parce que le resto de l'année, ça se passe plus rien. Mm-hmm. L'été, mais qui font les messieurs, ils lo font très bien, y realmente de grupo ayer, pues qui realmente de grupo ayer. Parce que ça les coûte moins cher. Si tu contrates un groupe comme l'orchestre, la charanga nueva, c'est bon. Ils vont nous payer un prix, mais à part de ce prix, il faut le doubler, parce qu'il faut la déclaration. Comme le demande la loi française, mm-hmm. comme ça doit être. Donc, ça ne les intéresse pas, parce qu'avec les prix qu'ils vont nous payer plus la déclaration, ça va les faire les prix des 12 orchestres qui vont ramener d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Tu comprends? Mm-hmm. C'est un autre problème aussi. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre.
Alors, actuellement, quelle est l'actualité d'Alfredo Cutufla?
L'actualité d'Alfredo Cutufla, c'est bon, la sortie de notre prochain album, que ça sera à la vente le mois prochain. Ça va sortir le 15 au 20 du mois prochain. Hein? Mm-hmm. Et voilà, j'espère que les gens ils vont bien nous accueillir. Les gens, ils sont sortis.
Ils sortent où?
Il va sortir sur, ici en France, il va être à la vente sur iTunes.
D'accord.
Hein? Mm-hmm. Sur l'antenne, les gens pourront le retrouver facilement. Ça sera annoncé, tout ça, sur Internet. Et voilà, j'espère que les gens que ça les plaira. Il y a aussi une compilation qui sont sortie un ami à nous qui s'appelle DJ El Chino, s'appelle Solar Latin Club. Avec plusieurs groupes, il y a quelques petits groupes français qui sont pas mal, comme Mosquito, qui est un petit groupe d'un copain saxophoniste qui joue très bien. Les groupes sont très bien. Et il y a des autres groupes de toute l'Europe. Hein? Et aussi, il y a la charanga nueva. Et ça vient tout juste de sortir. Je te ramène.
Oui, j'ai vu ça. Hein? Oui, j'ai vu ça. On ne peut pas malheureusement passer de musique ici.
Ah non, mais c'est pas grave.
Parce que notre petite radio n'a pas les autorisations.
C'est pas grave, tu prendras un petit thé à tout à l'heure.
Voilà.
Et tu disfruteras les disques.
Bien, Alfredo, écoute, un prochain concert, c'est le prochain concert.
On est en train de préparer un autre concert pour la fin du mois de mars.
Oui.
Ou la 12e mars du mois d'avril, au New
D'accord.
Morning.
Au New Morning.
Voilà.
D'accord.
Pour fêter un tout petit peu l'événement de la sortie du disque de la charanga.
Ah, oh, bah c'est très bien.
Ça. On va avec plusieurs artistes et tout ça. Et voilà. Et dans le futur, bon, on va préparer un disque de charanga traditionnelle de vibrafon. Que ça sera pour nous un grand plaisir d'accueillir Monsieur Orlando Guatusi, que c'est lui
oui,
qui va le chanter.
Mm-hmm.
Voilà, que c'est vraiment un grand chanteur de ce mm-hmm. style de musique. Et pour nous, ça sera un grand plaisir. Voilà, mais regarde, la chale de poule, parce que je sais que ça va être grand aussi, ça c'est pour le futur.
Eh bien, merci Alfredo.
Merci à toi, Marion.
Beaucoup de chance pour cette année 2008, avec tous mes voeux.
Merci beaucoup, merci pour toi aussi. Hein.
La prochaine fois, nous recevons, alors dans les prochaines interviews d'artistes, nous recevons Elisabeth Cooper, qui est pianiste et chef d'orchestre de l'Opéra de Berlin. Nous allons recevoir également Franck Galli, qui est violoniste à l'Opéra de Paris. Et nous allons recevoir Christina Delume, qui est spécialiste du romance espagnol. Voilà.
Ça, c'est très bien.
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup.